Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de la transition et de la résilience. Aujourd'hui, je reçois Jean-Emmanuel Gibert, directeur développement de la société Aquacet. Bonjour Jean-Emmanuel.
Bonjour Cyrus.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es venu ici nous parler du deuxième sujet le plus important du monde. Le sujet le plus important du monde, c'est l'air qu'on respire. Voilà. En quelques minutes sans air, on meurt. On a de la chance, a priori, on devrait avoir de l'air sur Terre pendant encore un moment, plus ou moins pollué, mais peut-être pas de là à se faire la guerre dessus. Ce qui relativise un peu l'intérêt d'aller sur Mars, comme le suggère notre ami Elon Musk. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un pull que ma maman m'a offert pour mes 38 ans en coton recyclé. Voilà, because there is no planet B. Voilà. Mais pas de panique, pas de panique, because there is plan B. Hein? Voilà, because there is plan B. Donc pas de planète B, mais on a un plan B et tu vas nous parler du tien concernant du coup le deuxième sujet le plus important au monde, l'eau. L'eau, puisque bon bah l'air c'est quelques minutes sans air et on meurt. L'eau c'est 2 3 jours je pense sans boire. Voilà. Donc c'est très important. Tu vas nous parler de l'activité de ta société. Puis on abordera les grands enjeux de l'eau en France et dans le monde. Voilà les tensions qui existent sur l'eau, pas seulement en termes de changement climatique, même si on va en parler, mais aussi de dégradation de la ressource, de surexploitation par rapport à ce que la ressource nous offre, et puis aussi des enjeux économiques de l'eau qui font que de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne peut plus continuer avec le modèle existant, ne serait-ce que par contrainte économique, qui est un sujet que tu connais très bien. Et puis on abordera aussi des cas très concrets de transition hydrique des territoires en France. Et ce qu'elles peuvent faire pour s'adapter à un monde de plus en plus contraint sur l'eau. Bah, sans plus tarder, Jean-Emmanuel, je te laisse
Parfait.
te présenter ainsi que l'activité d'Aquacé.
Bien, bonjour. Donc, moi, je suis Jean-Emmanuel Gilbert. Au départ, je suis docteur en chimie, spécialisé sur les problématiques environnementales, sur les parties pollution et puis valorisation matière, en fait, des déchets. Et puis, pendant toute ma carrière professionnelle, en fait, j'ai été mêlé en fait, au sujet de l'eau, notamment la qualité de l'eau, avec les questions qui ont émergé, de type perturbateurs endocriniens, etc. Et donc la toxicité en fait et l'impact des activités humaines sur l'environnement. Et il y a 7-8 ans en fait j'ai rencontré Stéphane Gilbert, alors pour le coup c'est un homonyme, on est dix frères du cousin, qui lui vient qui est ingénieur en gestion de l'eau et qui lui venait du monde de l'industrie et qui était confronté aussi mais d'une toute autre manière à la question de l'eau. Et en fait avec ces deux angles de vue qui sont très complémentaires, on a abouti assez rapidement, donc maintenant il y a oui 8-9 ans, à la conclusion qu'il allait y avoir, qu'on allait vers une transition hydrique de la même manière qu'il y avait eu une transition énergétique. On reviendra tout à l'heure sur les moteurs. Et donc du coup a émergé en fait dans notre tête l'idée de combiner un petit peu nos deux manières de faire pour voir comment répondre en fait à ce nouveau besoin qui allait être cette transition hydrique. Et c'est ce qui a amené premièrement, à des collaborations entre nos deux activités, et puis à la création d'Aquacé, qui a été fondée en fait en 2015, et qui, grosso modo, maintenant est une société de service avec deux types d'activités. Première activité, on fait des études de terrain pour aller faire des diagnostics et préconiser des solutions de réduction des consommations, réduction des rejets et amélioration de l'efficience en fait des usages et des traitements de l'eau. Et de l'autre côté, pour pouvoir faire ce métier, qui est principalement basé en fait sur une analyse extrêmement détaillée des flux et des usages de l'eau. Il a fallu qu'on développe notre propre outil d'analyse de données, en fait, plus précisément de collecte, centralisation et exploitation de flux de données en masse et en temps réel, de manière à avoir une vraie cartographie dynamique en fait de ces flux et usages de l'eau. Et il s'avère que certains de nos clients, il y a environ 6 ans, ils nous ont dit, ben, en fait, on est intéressé aussi par votre outil. Est-ce que vous pourriez nous le mettre à disposition, pas simplement pendant la durée d'une étude, mais pendant toute l'année, de manière à ce qu'on puisse continuer à faire de l'amélioration continue et continuer à identifier des leviers d'action pour réduire notre empreinte hydrique. Et donc, du coup, ça c'est devenu la deuxième activité, qui est de l'abonnement, grosso modo, à un SaaS, où on va créer, donc c'est un SaaS qui est 100% cloud, 100% web, Et on va donc collecter d'une manière ou d'une autre les différentes données liées aux usages de l'eau. Et là, c'est une des difficultés parce que les données liées à l'eau sont assez dispersées et très hétérogènes, dispersées dans différents systèmes d'information. Et puis hétérogènes parce qu'on va avoir des données qui sortent de capteurs en temps réel, avec des données qui arrivent 3 semaines plus tard parce que c'est une analyse en laboratoire sur des produits pharmaceutiques, des observations terrain. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est assez compliqué. Donc on arrive quand même à collecter tout ça, le centraliser de manière intelligente sur des bases de données dites en série temporelle. Et derrière, on fait des calculs métiers qui sont principalement du génie des procédés. Et donc ça, c'est quelque chose où nos clients s'abonnent en fait à ce système-là. La plupart du temps, ils utilisent les deux systèmes, enfin les deux services. C'est-à-dire, d'un côté, ils font appel à notre intelligence métier en tant qu'intervenant, et puis de l'autre côté, ils combinent ça avec aussi l'analyse de données. Voilà. Et après, pour finir là-dessus, on travaille principalement jusqu'à présent pour les grands secteurs industriels, à la fois ceux qui consomment beaucoup d'eau, mais ceux qui ont aussi une grande problématique au niveau de la qualité des rejets. Et puis le troisième type de client, c'est ceux dont l'eau impacte directement le produit, par exemple l'agroalimentaire, puisque l'eau peut rentrer même dans le produit fini, ou alors lorsque l'eau impacte directement le process, la qualité du produit fini, par exemple le traitement de surface, ce genre de choses. Et là maintenant, depuis, donc là on travaille ben, pour beaucoup de pas mal de groupes industriels. Et
Et
puis le
des
deuxième
collectivités
segment de
aussi?
marché sur le Voilà, le deuxième segment de marché sur lequel on a commencé à se positionner en R&D innovation avec certains services, notamment le SIAP, depuis maintenant 3-4 ans. Là, on est depuis en fait quelques mois, on commence à travailler en direct avec des collectivités de manière à appliquer cette stratégie de cartographie, identification des leviers, non plus simplement sur un périmètre limité qui est une usine, mais sur un périmètre qui est beaucoup plus complexe, qui va être une communauté de communes, voire un bassin. Voilà.
Bien. Il y a des jeunes et des moins jeunes aussi, mais qui m'écrivent, qui nous écoutent et qui cherchent leur voie dans un métier porteur de sens. Ma foi, en voilà un. Donc, tu es dans le métier du diagnostic, du monitoring des usages de l'eau, dans l'accompagnement des usagers industriels, collectivités et autres, pour une meilleure efficience des usages et la prévention des rejets, donc prévenir plutôt que guérir. Donc, ma foi, c'est l'avenir. Et de toute façon, on va en reparler. Mais on n'a plus le choix puisque le modèle actuel prédominant, qui est essentiellement basé sur rémunérer le prélèvement et rémunérer la dépollution, à un moment, il va dans le mur. Et donc, il va falloir faire exactement le genre de choses que tu fais, diagnostiquer, monitorer et accompagner vers plus d'efficience et de prévention. Et donc, pour ceux qui nous écoutent et peuvent s'intéresser à ce genre de voie, c'est un métier d'avenir.
Oui, en fait, il va y avoir, selon nous, effectivement, un basculement du modèle économique, puisque, comme tu l'évoquais, jusqu'à présent, en fait, c'était un modèle économique qui ne s'intéressait que très peu à l'efficience et à la pertinence même des usages, mais qui, c'est ce qu'on a, nous, au quotidien, y compris dans nos appartements, nos maisons. En fait, on paye au mètre cube consommé et on paye, en fait, aux eaux usées. En fait, tout ça, c'est fusionné, mais on paye pour les eaux usées de manière à ce qu'elles soient traitées. Et donc, plus on consomme, plus on paye, et plus on rejette des polluants, plus on paye. Et donc, les acteurs économiques se sont focalisés sur ces deux aspects-là. Alors que pour ce qui concerne Aquacé, on dit non, en fait, ce que l'on veut, c'est réduire les pollutions et réduire les consommations. Et donc, si notre modèle économique avait été basé sur le nombre de mètres cubes consommés et le nombre de mètres cubes à traiter, eh ben, en fait, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, c'est là où il va y avoir une inversion. Ce qui ne veut pas dire que l'ancien modèle économique va disparaître. On pense qu'il va y avoir un mix des deux où la notion de performance va être rémunérée. Voilà. Plus je vous aide à réduire vos consommations et plus je vous aide à réduire vos pollutions, plus je dois être rémunéré. Voilà.
Ouais. Non, effectivement, l'ancien modèle ne va pas non plus mourir, mais pour parler des actuels métiers de l'eau qui prédominent, ce sont les constructeurs d'ouvrages de traitement de l'eau, tout ce qui est ingénierie de traitement de l'eau, la fabrication d'équipements de produits chimiques pour le nettoyage. Donc tout ça, j'avais récupéré le chiffre hein, aussi. En France, ça fait plus de 100 000 emplois. Je vais vérifier là où j'ai. Oui, 125 000 emplois. Donc, dans tout ça, voilà, bureaux d'études, entreprises de traitement, les constructeurs, les canalisateurs, tout ça. Et donc, ce monde-là va peu à peu peut-être laisser place aux métiers qu'on évoque ici, qui émergent et qui sont à fort potentiel. Et tu vas nous en parler, mais qui, comment dire, commence à prendre, en particulier dans le secteur de l'industrie, avec lequel tu travailles, qui ne peut plus faire comme avant.
En fait, là, tu dis, il va laisser place. Moi, je dirais pas laisser place. Il va être complété par des activités qui vont dire, ben, en fait, voilà comment est-ce qu'il faudrait avoir une vision un peu plus globale de l'efficience du système et pas simplement de l'amont et de l'aval. Voilà. Donc, l'amont et l'aval, par exemple, le fait qu'il y ait des tuyaux, des usines d'eau potable, des stations de traitement en ville ou dans les usines. Ça ne changera pas, on en aura besoin parce qu'on ne va pas réduire à 0% ni les consommations ni les rejets. Donc il va falloir faire ça. Par contre, il va y avoir effectivement une différenciation un peu plus importante sur les acteurs et notamment des interactions beaucoup plus importantes au niveau des usages. Et c'est ça la stratégie d'efficacité hydrique en fait, qu'on porte avec Aquacé. C'est-à-dire, en fait, on va d'abord s'intéresser aux usages pour réduire les consommations, réduire les pollutions produites, voir comment est-il possible de réorganiser certains flux, par exemple pour faire des boucles de recirculation, pour faire du recyclage, de la réutilisation, du tri sélectif directement au niveau des usages. Et donc là, de nouveau, on réduit encore le besoin en amont et en aval. Et tout ce qu'on n'a pas pu éviter, oui, il va falloir le produire en amont et oui, il va falloir le traiter en aval. Mais on est vraiment avec une inversion en fait dans la hiérarchie du plan d'action. On fait les usages, la réorganisation et ensuite seulement les traitements. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt en train de dire, bon, bah, si vous avez besoin de X mètres cubes par heure de telle eau, telle qualité, bah, voilà, je vous mets une installation pour la produire. Voilà.
On parle, ça a l'air de rien, mais vraiment d'une révolution. J'aime bien l'image effectivement des tuyaux. Aujourd'hui, on s'intéresse essentiellement aux tuyaux qui rentrent, donc prélevés et payés pour ce prélèvement. On s'intéresse aux tuyaux qui sortent, donc les rejets et à les nettoyer. Mais tout ce qui se passe entre les deux, globalement, ça peut être géré de manière bien plus efficiente et de manière beaucoup plus propre et intelligente. En accompagnant les usagers, en trouvant des solutions intelligentes pour éviter les rejets. Il y a tout un monde à inventer au niveau de tous les usagers, hein, donc
C'est ça,
agriculteurs,
c'est ça.
industriels, les ménages, les collectivités, la restauration collective. Enfin, tout peut être réorganisé et ça va demander
C'est
ma
ça.
foi, du travail intelligent et des forces vives de notre
Pour
pays.
faire un parallèle encore, pour faire un petit parallèle, c'est pour bien faire comprendre, en fait, comme l'eau n'était pas une question jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a été dans un monde qu'on croyait, comment dire avec Stéphane, en fait, l'eau était semblée gratuite, inaltérable et inépuisable, ce qui n'est pas le cas pour aucun des trois points, et ben, en fait, on ne s'en est pas préoccupé. Et donc, du coup, de la même manière que pour l'énergie, on avait fabriqué des passoires thermiques, parce qu'on pensait que l'énergie, ce n'était pas un problème, etc. etc. Et ben, on a fait en gros des passoires aussi hydriques. C'est-à-dire que les procédés, les manières de faire, et c'est valable pour la ville, l'agriculture, l'industrie, n'a pas suffisamment pris en compte le fait que l'eau, en fait, était non pas gratuite, mais très coûteuse. Et ça, on pourra y revenir. En fait, le prix de l'eau aujourd'hui est très, très sous-évalué. Elle n'est pas inaltérable. Ben, on le voit avec toute la problématique de la dégradation de qualité de l'eau. On le voit aussi avec, elle n'est pas inépuisable. Ben, voilà, maintenant, on se retrouve avec un impact du changement climatique directement sur le cycle de l'eau. Donc, on se retrouve avec non seulement une tendance qui n'est pas bonne du tout, mais surtout la gestion des aléas. Et c'est ça qui est en train de donner des gros coups de boutoir dans le système. Parce que le fait qu'en 2050 ou en 2100, on soit dans telle ou telle situation, c'est une chose. Mais en fait, dans la réalité, dans le domaine de l'eau, on est déjà impacté. Les dernières années, on a déjà eu en France, grosso modo, des épisodes de sécheresse qui étaient extrêmement importants et qui ont impacté déjà l'alimentation en eau potable, l'industrie, l'agriculture, bien sûr, mais même le refroidissement des centrales, puisque certaines tranches en fait, de certains nucléaires ont dû être arrêtées, justement à cause de la problématique de l'eau. Pas simplement d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'eau, mais parce que l'eau va être de moins bonne qualité. Par exemple, pour le refroidissement, la température est déjà trop élevée. Et donc derrière, bah, à la fois refroidir avec de l'eau chaude, ce n'est pas pratique, mais ça veut dire qu'on rajouterait encore de la. Les thermies, en fait, on augmenterait encore la température du milieu naturel. Et donc, ça veut dire que là, on flingue tout, quoi. Donc, on voit on rentre dans un monde qui va être sous contrainte. Et jusqu'à présent, ce n'était pas perçu parce qu'on n'avait pas encore atteint la limite. Là, non seulement on a atteint la limite de par la surexploitation, contamination des ressources, etc., etc., mais en plus, cette limite est en train de subir des variations qui sont importantes. Et c'est ça que le système aujourd'hui déjà ne sait plus gérer. Voilà.
On va aborder une à une ces différentes contraintes qui font que, on va dire, l'ancien système doit évoluer. Donc il y a le changement climatique. Alors effectivement, tu parlais d'épisodes de sécheresse et on voit déjà des zones de tension en France. Enfin, par exemple noter la Corrèze qui, il y a 2 ou 3 étés, a dû mobiliser des centaines de camions pour approvisionner certaines de ses
Oui, la
communes.
Creuse aussi, mais même Lille, hein, le nord de la France, en fait, est aussi très, très impacté. Hein.
C'est ça qui est fou,
Parce que,
c'est que
alors, bon.
j'ai un peu grandi en me disant que ça va être le sud-est principalement qui va être concerné. C'est parce qu'on voit ça comme une zone plus chaude, plus aride, ou la Corse. Mais non, ça concerne
Ouais.
tous les départements, ça concerne le nord, ça concerne l'est.
Ah bah, le Doubs était à sec, je crois que c'était l'an dernier ou il y a 2 ans. Le Rhin, par exemple, voilà, on peut prendre un exemple extrêmement concret pour montrer ce que c'est que le stress hydrique. Le stress hydrique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Le stress hydrique, ça veut dire que la quantité d'eau est d'une certaine qualité est inférieure, disponible en fait au quotidien, est inférieure à ce dont on aurait besoin pour les usages. Donc, on peut être dans un pays où il y a beaucoup d'eau, entre guillemets. Mais si on en veut 2 fois plus, on est en stress hydrique. Ça veut dire qu'il y a 50% des usages qui ne seront pas alimentés. Donc, on peut prendre quelques exemples basiques pour bien montrer la diversité en fait, des situations. Il y a des usines qui ont été obligées de s'arrêter il y a, je crois, 2 ans. Je crois que c'était pour la grande sécheresse de 2019 au niveau du Rhin parce que tout simplement, le transport fluvial ne pouvait plus se faire. Et donc, les usines qui étaient en bord de Rhin, en fait, n'arrivaient plus à être alimentées en matière première et à sortir leur produit fini. Donc ça, c'est un des aspects en fait de l'eau, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'eau en fait, elle est utilisée partout. Toutes les activités humaines utilisent de près ou de loin sont liées à l'eau. Alors bien sûr après, donc je cite un exemple sur le transport fluvial, mais on l'a bien sûr avec les sécheresses qui impactent les modèles agricoles. On va l'avoir au niveau de l'alimentation en eau potable pour la ville. La question n'étant pas simplement d'ailleurs de la quantité d'eau disponible, mais la qualité de cette eau, parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle eau pour fabriquer de l'eau potable. Et donc, lorsque l'on est en plus en sécheresse, on va avoir une concentration des polluants, on va avoir une température de l'eau qui est beaucoup plus élevée. Et donc, derrière, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément disponible pour fabriquer de l'eau potable. Et puis, de la même manière, ça va être, on va avoir des restrictions et assez importantes pour le milieu industriel. Donc, la question de l'eau, en fait, n'est pas simplement il n'y a pas d'eau. La question est plutôt de dire je suis en stress hydrique parce qu'il y a moins d'eau et de moins bonne qualité par rapport à ce dont j'aurais besoin. Et là, a priori, toutes les régions sont impactées. Alors, le sud-est de la France était déjà impacté par la sécheresse. En fait, on a l'habitude en Provence, moi j'habite enfin, je viens de Provence en grande partie. Donc, en Provence, on était déjà habitué à être en milieu sec. Et donc, les activités. Ben, se sont adaptés. Et là, la problématique, c'est que on était dans un monde où on pensait qu'on allait avoir telle quantité d'eau et qualité, donc forcément, on s'est mis à ce niveau-là. Et puis là, ce qui se passe, c'est que pendant un moment de l'année, ben là, ça chute. Et puis bien sûr, pendant les périodes de pluie, on se retrouve avec des inondations. C'est-à-dire qu'on a une perturbation du cycle de l'eau. C'est ce qui fait que les deux régions qui sont les plus impactées aujourd'hui en France, ça va être tout le bassin Adour-Garonne. Et puis, grosso modo, la partie Normandie jusqu'à la partie nord. Voilà. Et puis, les autres régions vont souffrir aussi, hein, parce on va subir ces aléas. Mais pour donner des ordres de grandeur sur le bassin Adour-Garonne, l'étude de Garonne 2050, qui est menée par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, indique que, je crois que c'est en 2019, il manque 250 millions de mètres cubes à l'année. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un stress hydrique déjà important. Et on va vers, à horizon 2040 ou quelque chose comme ça, vers un manque qui serait d'environ 1 milliard de mètres cubes, c'est-à-dire environ 40% des usages, 40 ou 50% des usages. Les ordres de grandeur, c'est énorme, hein, c'est-à-dire, ça veut dire que les activités économiques, tout le modèle économique qu'il y a, agricole, industriel, eau potable, eh ben, rentre dans ce que j'appelle moi, c'est la fin du monde open bar. Et donc, on ne peut plus, physiquement parlant, faire n'importe quoi, parce que tout simplement, c'est plus possible.
Oui, sachant qu'on évoque tout ça, on n'est qu'en 2020 et le climat ne s'est réchauffé que d'environ un gros degré, plus 1,2 degré
Oui.
à l'ère pré-industrielle. Donc, et sachant
Oui.
que le degré suivant de réchauffement qui est quasi déjà engagé, sauf si on meurt tous demain, mais le degré suivant va induire des contraintes plus fortes que le degré qu'on vient de prendre. Et il va arriver plus vite aussi, hein, d'ici le milieu du siècle. Une question là-dessus. Alors, sans vouloir dire de bêtises, la quantité d'eau sur Terre est constante.
Elle est
La
constante,
quantité
oui.
de pluie qui tombe devrait être constante aussi, sauf parce que je raconte une bêtise. Après, tu parles de dérèglement de cycle de l'eau. Le
Oui.
problème, déjà, ça va se dérégler en termes de où ça tombe, des endroits où ça pourrait tomber plus qu'avant, d'autres où la pluie pourrait tomber moins qu'avant. Et surtout, même à quantité de pluie constante sur l'année, ça va être beaucoup plus ramassé en
C'est
période
ça.
de pluie. Et beaucoup, c'est-à-dire, il va y avoir de plus en plus de pluie là, quand il pleuvait déjà pas mal, et de moins en moins d'eau quand il y avait déjà peu d'eau. Et là, je viens de dire, en Australie, là, pendant ce mois de mars, en une semaine,
C'est
il est
ça.
tombé l'équivalent de 6 mois de pluie. Et
Voilà.
donc, ça voudrait dire aussi que il pourrait y avoir en gros des fortes pluies sur des sols asséchés par l'été, ce qui n'est pas très bon. Alors après, il y a des solutions agricoles, il y a des solutions pour pallier ça. Mais c'est un peu ce à quoi on fait face et qui nous pousse à une gestion plus intelligente de l'eau.
Oui, donc on peut effectivement se projeter en 2050, 2100, etc. Mais de mon point de vue, ce n'est pas la peine parce que la situation actuelle déjà passée, c'est-à-dire dans les on va dire 10 dernières années, montre qu'on a déjà rencontré, en fait, on a déjà tapé dans l'iceberg, le problème est déjà là. Et donc, bien sûr, on peut faire de la prospective et dire comment ça va encore devenir pire, mais… Et puis là, il peut y avoir plein de discussions, mais en fait, ce n'est pas la peine. Il suffit de prendre les mesures qui ont déjà été faites dans les dernières années, de s'apercevoir que, compte tenu du fait que le changement climatique qui est engagé, il ne va pas s'arrêter demain matin, donc il suffit de regarder pour les 10, 20 prochaines années, et là, les données sont suffisamment fiables. Et on s'aperçoit qu'effectivement, par exemple, nous, on est basé à Limoges, dans le Cousin, donc… Le cycle de l'eau en fait est en train d'être perturbé et on est en train de passer d'un cycle de l'eau qui était j'ai des fortes pluies qui sont grosso modo au printemps, une sécheresse plus ou moins dure pendant l'été. Ensuite, il se remet à pleuvoir en automne et en hiver et grosso modo, alors pas de la même manière, mais grosso modo ça allait. Et donc ça a rechargé à la fois les réserves et puis les milieux naturels. Mais on est en train de passer de ce monde-là à quelque chose où on va avoir énormément de pluie, en fait, pour la partie printemps, sécheresse l'été, probablement sécheresse l'automne et l'hiver. Donc avec une période, en fait, qui va être de plus en plus longue, sans apport d'eau. Et là, ça c'est un changement du cycle de l'eau. De la même manière, pour le bassin Adour-Garonne, puisque nous, en Limoges, on dépend du bassin Loire-Bretagne, mais sur les études et les études qui ont été menées sur Adour-Garonne, en fait, ils disent que, par exemple, la période estivale va s'élargir de 3 à 6 mois. Bon, ben là, on revient sur ce que j'expliquais tout à l'heure. Le changement du cycle de l'eau fait que l'organisation humaine, que ce soit pour l'agriculture, la ville, l'industrie, les milieux naturels, etc., etc., eh bien, en fait, passe d'un régime à un autre. Et le problème, c'est que cette transformation se fait trop rapidement. Et donc, il n'y a absolument pas le temps de s'adapter. Et c'est cette inadéquation, en fait, entre les usages de l'eau et l'organisation, en fait, de l'eau, des humains vis-à-vis de l'eau, qui inadéquation avec le nouveau cycle de l'eau qui est en train de poser problème.
Sur la tension ailleurs dans le monde, donc ça fait longtemps qu'on dit des milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable. Encore
Oui.
je pense une estimation récente du World Resource Institute qui disait 30 ou 40% de l'humanité, ou un quart, pardon, un quart de l'humanité. Donc ça va être Inde plus Pakistan plus Iran plus Maroc, bon, d'ailleurs, le Moyen-Orient et l'Inde plus l'Afrique du Sud, ça fait une bonne partie de ce quart manque d'eau. Ça fait un moment qu'on le raconte. Mais voilà, il n'y a pas un seul été, on est quand même 8 milliards sur Terre, il n'y a pas eu un seul été où on a vu bah, des centaines de milliers ou des millions de personnes qui meurent de soif d'un coup, pour dire on s'en sort toujours. Donc au final, comment on fait pour quand même s'en sortir? Et je pense que tu as eu l'expérience au Maroc pour présenter un cas concret aux gens qui nous écoutent.
Oui, alors, donc déjà, avant de parler du cas du Maroc, pour bien comprendre qu'effectivement, ça fait déjà pas mal de siècles probablement, qu'il y a des zones qui sont en tension hydrique avec des grandes sécheresses, des pénuries d'eau, etc. Mais ce que j'expliquais, c'était que les activités humaines, en fait, se sont adaptées à ça. Voilà. Et là, ce qui est en train d'être nouveau, c'est que le cycle de l'eau est en train de varier rapidement. Et donc, c'est cette inadéquation qui pose problème et qui va poser de plus en plus problème, hein. Le rapport de l'ONU 2019 indique que d'ici 2050, ils estiment que 45% du PIB mondial est en danger uniquement lié au risque eau et que 40% de la production céréalière mondiale est en danger uniquement pour le risque eau. Donc on voit que, OK, dans les siècles précédents, bah, forcément, il y avait des aléas, il y avait des grandes difficultés, mais on savait gérer parce que c'était adapté, grosso modo. Tandis que là, c'est ce décrochage en fait trop rapide qui fait que ça va créer des tensions énormes et probablement des grands déplacements de population parce qu'il y a des zones qui seront à la fois pour l'eau, mais pour les questions de température aussi, qui seront inhabitables ou alors inexploitables au sens classique du terme. Alors, pour prendre un petit exemple, donc j'étais effectivement fin 2019 au Maroc dans une mission française sur les problématiques environnementales, et ce qui nous a permis de rentrer en contact avec le ministère en fait de l'environnement, de l'eau, avec différentes organisations. Et il y a eu une présentation qui a été faite par le responsable de la stratégie eau en fait du gouvernement, et qui a indiqué que voilà, en résumé, le Maroc s'était équipé avec des grands barrages qui sont dans l'arrière-pays. Qui permettent de stocker de l'eau et ensuite d'irriguer ensuite les activités humaines. Mais qu'aujourd'hui, avec ce changement de cycle de l'eau, bah, la problématique est qu'il ne va plus forcément pleuvoir au bon endroit au bon moment. Et donc, ce système-là va éventuellement devenir inadapté. Et donc, la question, c'était, c'est lui qui présente ça comme ça. Il dit maintenant, on commence à réfléchir à comment faire des connexions inter-régions. Mais alors, ça veut dire, je ne sais pas si on imagine ce que ça signifie de connecter des régions entre elles. C'est des travaux qui vont être gigantesques. Et puis, là encore, c'est des coûts, c'est-à-dire le modèle économique. On est au fur et à mesure qu'on a cette inadéquation, on est en train d'essayer de combler le gap qui est en train de se créer en rajoutant de la technologie, de l'investissement, de la consommation d'énergie, de la consommation de matériaux, etc., etc. Donc là, par exemple, il y avait l'exemple du Maroc, mais on a beaucoup de pays du pourtour méditerranéen ou Moyen-Orient, mais Australie aussi, où ils rajoutent des usines de dessalement d'eau de mer. Bon, alors de qui on dit, ben ouais, si vous n'avez plus du tout d'eau, il va bien falloir en produire. Par contre, c'est pas infini, puis ça coûte énormément, ça coûte très très cher, ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, nous, un petit peu, le message, c'est de leur dire, OK, si à un moment donné, sur telle zone, il n'y a vraiment plus d'eau, bah, il faut trouver des ressources alternatives. Par contre, rajouter des systèmes de production qui consomment beaucoup d'énergie sans avoir préalablement fait de l'efficience sur vos usages, c'est juste du suicide. Parce que le jour où l'énergie va commencer à coûter un peu plus cher, bah, là, tout votre modèle économique il part en vrille. Et donc, il faut d'abord réduire au maximum vos consommations, vos rejets, c'est-à-dire réduire la taille du problème et sa complexité. Et tout ce que vous n'avez pas pu éviter, essayez de le combler. Mais sinon, c'est un puits sans fond, quoi. Hein, voilà.
Ce nexus eau-énergie est très intéressant.
Tout à
Alors,
fait.
je mettrai un lien vers une étude de l'AIE que j'avais lue. Tu parlais du Moyen-Orient. Globalement, aujourd'hui, le Moyen-Orient, bon, ça inclut l'Iran quand même, consomme de l'ordre de 3, enfin, consacre de l'ordre de 3, 4, 5% de son énergie pour avoir de l'eau. D'ici 2035-2040, ce serait plutôt de l'ordre de 15%. C'est énorme, c'est énorme. Tout à
Mais
coup,
non,
consacrer 10 points de plus, bon, bref.
Et puis il y a un autre aspect, il y a un
Les
autre
trois
aspect,
continuent
c'est-à-dire que
après
là,
2040, hein, je veux dire, le monde
on...
s'arrête en 2040, les
ouais.
trois continuent après. Et pour prendre l'exemple de l'Iran, bah, c'est beaucoup ce que tu évoques, c'est-à-dire, bon, bah, voilà, les gens ont des aspirations de consommation à la mode, entre guillemets, occidentale. La population s'urbanise et se déconnecte un petit peu des ressources naturelles. Le pays est le quatrième ou le cinquième le plus stressé d'un point de vue hydrique. Mais voilà, on construit des stations de dessalement d'eau de mer en plus, des stations de pompage en plus. Et aujourd'hui, le pays consomme à peu près autant d'énergie pour avoir de l'eau que pour se transporter, hein, que pour ses transports. Donc cela, effectivement, a une limite. Bon, il se trouve qu'il y a pas mal de pétrole et de gaz en Iran, mais ce n'est pas non plus infini. Donc ça me parle beaucoup. Donc effectivement, on repousse le mur, on repousse le
Ouais.
mur, mais on n'adapte pas encore les usages. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la marge pour faire mieux en termes d'efficience, donc adapter ce qu'on consomme.
Ouais.
Pour donner un exemple, l'Iran consomme beaucoup de pastèques, les gens ont quand même pas mal de piscines, enfin voilà, ils vivent un peu comme si de rien n'était encore, hein. Donc il y a de la marge pour s'améliorer.
Et donc là, il y a deux aspects qui sont importants dans ce qu'on vient de dire. Il y a un premier aspect qui est qu'effectivement, si on est un pays qui dispose de grandes réserves gazières, pétrole, etc., peut se permettre en fait de faire ça. Les autres pays, pas du tout. D'accord? Ça ne marchera pas. D'un point de vue économique, c'est complètement hors d'échelle. Il y a un autre aspect, hein, c'est que fabriquer de l'eau potable à partir de l'eau de mer, ça veut dire que on a des rejets industriels liés en fait à la production d'eau potable. Parce que quand on prend de l'eau de mer, ben, ça veut dire qu'on va rejeter. Alors selon les procédés. On va rejeter, par exemple, pour 1 litre d'eau potable, on va produire environ 1,5 litre de rejet. Dans ces rejets, non seulement, selon les procédés, là encore, il peut y avoir, ça peut être des eaux chaudes. Donc ça, c'est un des gros problèmes avec les usines de dessalement d'eau de mer qui sont notamment sur le pourtour du Moyen-Orient. qui utilise en fait directement par évaporation, condensation en fait de l'eau. Donc on rejette des eaux chaudes, mais aussi ça utilise énormément de produits chimiques parce que derrière tu es obligé de faire du nettoyage, etc., etc. Donc ça a aussi un impact environnemental qui a d'ailleurs été noté par un des rapports de l'ONU en disant dans telle région vous êtes en train d'impacter le milieu naturel uniquement à cause des usines de dessalement, quoi. Donc on voit que là aussi c'est le solutionnisme technologique, comme on dit, c'est aussi une impasse, même physique, quoi.
Oui, c'est de ce que je comprends. Il y a des rejets, bon, comme les perturbateurs endocriniens, qui sont de plus en plus difficiles à traiter. Alors théoriquement, on peut par la technologie, mais c'est de plus en plus cher.
Oui.
Et donc cette
Oui, c'est
course-poursuite
ça. C'est ça.
technico-économique
C'est ça.
gagne éternellement.
C'est ça.
Donc il y a quatre moteurs pour un peu conclure sur cette partie dans cette affaire d'eau. Hein. Le changement climatique, on en a parlé.
Oui.
La dégradation de la ressource avec les rejets de polluants, on peut en parler encore un petit peu si tu veux.
Oui, alors là,
L'surexploitation.
il y a un article très intéressant qui, je crois que c'est la Banque mondiale de 2020, que je suis tombé dessus en fait dans le cadre ma bibliothèque, là. Un article qui montre que l'impact lié à la qualité de l'eau sera probablement plus important que l'impact quantitatif.
Ah oui?
Et que justement là, ouais, et donc justement là, il y a un très grave problème qui jusqu'à présent est un petit peu méconnu, et ils appellent ça d'ailleurs, je sais plus comment, l'impact invisible ou quelque chose comme ça. Et on est en train de se rendre compte que la problématique de la qualité de l'eau, bah, en fait, peut être beaucoup plus importante. Alors je suppose que là encore, l'eau c'est local, d'accord? Donc parler de généralité,
Bien sûr.
c'est dans le domaine de l'eau, c'est généralement ce qu'il faut pas faire. Mais donc dans certaines zones, on peut avoir des endroits qui vont être extrêmement impactés par la problématique de la quantitative, c'est-à-dire en fait ce cycle de l'eau, est-ce qu'il y a déjà de l'eau en quantité suffisamment disponible au quotidien, et d'autres endroits où ça va être la qualité qui va être un plus grand problème. Avec un impact, c'est ce qui a été montré, un impact en fait sur toutes les régions qui sont en aval en fait de la pollution, parce que ça impacte toutes les activités économiques, mais aussi bien sûr les milieux naturels. Qui subissent en fait cette pollution.
Bien sûr. C'est pas si intuitif, mais effectivement, une fois qu'on y réfléchit, alors après, il va y avoir des régions qui vont avoir les deux problèmes à la fois. Enfin, je pense à la Chine,
Oui.
où ils ont des fleuves qui parfois s'arrêtent et qui, par ailleurs, sont très pollués aussi lorsqu'ils coulent.
Oui.
Donc oui, la qualité de l'eau va bah, liée, j'imagine, aux rejets industriels, les rejets agricoles, les rejets des ménages,
Oui, c'est ça.
qui sont peu, voire pas nettoyés, car trop cher, ou alors on n'a pas les moyens. Ouais. D'accord. Non, c'est important de le mentionner si on arrive à retrouver ce lien vers l'étude de la Banque mondiale.
Ah ben je l'ai mis sur un de mes posts LinkedIn justement il y a, je sais pas, 10-15 jours.
D'accord, vous avez pu le
Et donc
repêcher.
tu pourras reprendre le lien et le mettre après en lien sur ta vidéo.
Changement climatique, dégradation des ressources. Le troisième moteur, la surexploitation. On en a parlé un petit peu.
C'est ça.
Alors, c'est les usages agricoles. Donc, est-ce que certaines cultures, bon, on parle beaucoup du maïs en France, ça, on va pas jeter la pierre à une culture en particulier dans une région en particulier, mais c'est un exemple. Des cultures qui ne sont pas forcément adaptées à un contexte contraint en eau dans certains territoires. Et puis un quatrième moteur qui est finalement assez englobant puisque qu'il est impacté par les trois autres, c'est la question économique. Donc tout ce qu'on
Oui.
vient d'évoquer, changement climatique, pollution, surexploitation quelque part, ça peut se gérer, mais au bout d'un moment, on va potentiellement manquer de moyens.
Oui, il y a un petit détail quand même sur la partie surexploitation qu'il faut rajouter, c'est que ce n'est pas simplement, comme tu l'as évoqué, une augmentation du nombre d'habitants et une augmentation des activités humaines de par le système de production et de consommation, mais c'est aussi une problématique de concentration en fait de ces besoins dans les zones urbaines. Et il est évident que le milieu naturel, il n'est pas élastique. Le fait de passer je crois que Bordeaux envisage de passer de 800 000 à 1 million d'habitants, etc., etc. Ben, ça veut dire qu'au même endroit, on est en train de concentrer en fait ses besoins et ses rejets. Et là, là aussi, physiquement parlant, ça va pas fonctionner. On commence à avoir, par exemple, des biseaux salés en bord de mer. Pourquoi? Ben parce que comme on est en train de pomper en fait une quasi-totalité des eaux utilisées sont des eaux souterraines dans le cas du Bordelais. Et donc du coup, on est en train de ralentir le flux d'eau qui contrait l'entrée du sel dans le sous-sol. Et donc, du coup, maintenant, on a le sel qui rentre en fait dans les terres, ce qui est dans la partie sous-sol, hein, ce qu'on appelle un biseau salé. Et donc, on commence à avoir une augmentation de la salinité sur certains endroits, sur certains puits. Donc, cette question de surexploitation, elle se combine en plus avec un facteur aggravant qui est la concentration. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler les moteurs, en fait. Donc, changement climatique, dégradation et surexploitation. Ça, ce sont effectivement trois moteurs qui sont importants, qui sont physiques. Et puis, il y a un autre moteur qui est extrêmement important aujourd'hui, qui est effectivement le moteur économique. C'est-à-dire, pourquoi je parle de moteur économique? Parce qu'en fait, j'utilise le terme de moteur parce que c'est qu'est-ce qui va enclencher la dynamique. Et donc, on a vu qu'il y avait des problématiques physiques. Et là, ben, forcément, il faut bouger, hein, comme je le dis rapidement. Quand il n'y a plus qu'un seul litre d'eau sur la table, vous pouvez courir autour en tapant avec vos petits poings, faire des lois, etc., etc. Il n'y aura toujours qu'un seul litre. Donc, il va falloir faire différemment. Donc, c'est une contrainte. Par contre, il y a un autre aspect qui est l'aspect économique, qui est que jusqu'à présent, cette contrainte-là n'avait pas été intégrée. Et elle n'était pas aussi fortement subie par ailleurs. Et donc là, ça va impacter certains modèles économiques. Par exemple, certaines usines vont commencer à avoir des réductions de production, voire des arrêts de production. Ben, ils ne généraient pas des 50% de bénéfices qui permettent les modèles économiques étaient déjà assez tendus. Et donc là, on est en train de rajouter en fait des contraintes et donc des coûts supplémentaires, qui ne sont pas forcément d'ailleurs liés à une réglementation, hein, qui peuvent être liés à une réglementation ou à des demandes en fait des autorités de contrôle. Par exemple, actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui reçoivent des lettres de l'Adreal en disant, ben voilà, compte tenu du fait qu'on est en train de passer dans un cycle d'eau qui se modifie, avec des périodes de sécheresse qui vont être régulières et plus longues, eh ben, on vous demande dès aujourd'hui, de vous engager à moins 10, moins 20, moins 30% en fait de réduction de vos consommations, et en plus de préparer des plans de réduction supplémentaires en cas de sécheresse dure. Ben donc ça veut dire qu'il va falloir réorganiser et on passe d'un modèle où, je caricature pour aller vite, l'eau était open bar et coûtait rien, et donc le modèle économique fonctionnait comme ça, à quelque chose qui va être sous contrainte et qui va coûter. Et ben la problématique en fait du modèle économique va être posée. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui passe complètement sous les radars de moins en moins maintenant, c'est que le coût de l'eau n'est absolument pas calculé correctement. C'est-à-dire que la réflexion autour de l'eau et du coût de l'eau se fait principalement par rapport à son accès et par rapport au rejet. Grosso modo, c'est ce qu'on a chez nous, hein, d'accord? C'est-à-dire chez nous, c'est-à-dire dans notre appartement, dans notre maison, j'ai un tuyau, j'ai un compteur et derrière, ben, je paye par rapport à ça. Mais dans le cadre d'une usine, par exemple, il faut comprendre que comme toutes les activités industrielles sont liées de près ou de loin à l'eau, hein, pour transporter, pour diluer, pour chauffer, pour refroidir, comme ingrédient, etc., etc., le fait d'avoir plus ou moins d'eau de plus ou moins bonne qualité va impacter aussi votre productivité. D'accord? Et donc, vous pouvez avoir des réductions de production qui sont liées au fait qu'il y a une mauvaise gestion de l'eau ou qu'il y a une réduction en fait en amont ou en aval. Il va y avoir aussi un autre levier qui est extrêmement important, c'est que l'eau consomme beaucoup d'énergie. Parce que 1 mètre cube d'eau, c'est 1 tonne. Et donc, lorsqu'on a des industriels ou n'importe quel type d'activité qui exploite en fait, on va dire, X milliers de tonnes donc par jour, ben, ça veut dire que vous avez des pompes partout qui poussent tout ça. Ça veut dire que lorsque ça arrive dans la station d'épuration, vous avez des aérateurs qui font buller tout ça, etc., etc. Et ça consomme beaucoup d'énergie en fait. Donc ça, c'est un autre levier. Et là, il y a une erreur qui est faite la plupart du temps dans la comptabilité analytique, c'est-à-dire que toutes les consommations d'énergie liées à l'eau sont mises dans le bloc énergie. Alors que nous, on dit non, non, non. Comme c'est de l'énergie qui est liée à l'eau, si par exemple j'arrive à réduire de 50% mes consommations d'eau, ben, j'ai besoin de moins de pompes et de moins d'électricité, donc j'ai réduit mes investissements et j'ai réduit mes coûts opérationnels, mes coûts d'exploitation. Et donc là, vous voyez bien que cette partie de l'énergie, en fait, c'est un coût de l'eau, ce n'est pas un coût de l'énergie. Donc
Une approche
l'eau
coût
en tant que
complet.
telle, voilà, exactement. L'eau en tant que telle est un levier sur lequel il faut agir parce que on a la contrainte physique de l'eau, la sécheresse, les changements climatiques et compagnie, ça c'est vrai. Mais c'est aussi un levier extrêmement intéressant parce que jusqu'à présent peu exploité pour améliorer de manière générale l'efficience en fait du système parce que ben, ça réduit les installations, ça réduit les emmerdements, ça réduit le coût d'énergie, ça réduit la quantité de produits chimiques qui sont consommés, etc. Ça améliore la productivité, donc c'est un coût global. Et nous, on préfère parler de coût global en séparant deux aspects, les coûts qu'on appelle directs, c'est-à-dire en fait l'accès à l'eau, les taxes, le personnel qui travaille pour l'eau, le coût des tuyaux, etc. etc. Ça, c'est
C'est
le coût
presque
direct.
rien.
Et voilà. Et les coûts indirects dans lesquels on a la productivité, la dégradation des installations, éventuellement même l'image. Et là, on s'aperçoit, parce qu'on a eu l'occasion de faire ce type d'études pour des industriels, qu'on passe de quelques euros le mètre cube à quelques dizaines d'euros le mètre cube. Pas du tout le même ordre de grandeur. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi valable. Nous, on connaît bien sur le milieu de l'industrie, mais c'est aussi valable, en fait, pour les collectivités. Je fais une petite parenthèse pour revenir sur l'industrie. Il est évident que ce multiple, en fait, entre la partie émergée de l'iceberg et la taille de l'iceberg, va dépendre très fortement de la taille de l'usine, va dépendre très fortement de son activité. Si vous êtes un industriel du chocolat qui utilise très peu d'eau, cette démultiplication entre le coût réel direct et le coût global va être beaucoup moins importante que si vous êtes un complexe industriel avec de l'industrie pharmaceutique, plein de choses, etc., etc. D'accord? Mais les ordres de grandeur sont à peu près ceux-là. Et c'est ce qu'il faut avoir en tête. Le coût de l'eau est très, très, très sous-estimé pour l'industrie. Mais c'est valable aussi
La
pour les
collectivité.
collectivités. Aujourd'hui, il y a un très grave problème qui est connu, hein, qui est sur la table, qui est par exemple le renouvellement des installations et notamment le renouvellement des réseaux. Puisque les réseaux ont été installés en France, grosso modo, il y a entre 80 et 50 ans, qui est à peu près la durée de vie en fait, de certains réseaux. Et donc, on est face à un besoin de renouvellement extrêmement important de ces réseaux. Et il se trouve que le prix actuel de l'eau ne prend pas en compte, ou très insuffisamment, en fait, ce renouvellement. Et donc, on se retrouve face à un investissement assez considérable qu'il faut faire, qui n'est pas assis sur le coût de l'eau. Sur le prix vendu. Et donc, du coup, bah là, là c'est vraiment une impasse. Et bien sûr, ceux qui sont les plus impactés par ce type de situation, ce sont les communes rurales, puisque eux vont avoir, par exemple, sur un kilomètre de réseau, ils vont avoir quelques habitants, alors que sur le même kilomètre de réseau en ville, on va avoir éventuellement des milliers d'habitants. Et donc, on est capable d'asseoir le renouvellement des réseaux sur des milliers de factures, alors que l'autre, c'est quelques factures. Ça marche pas du tout. Et le système n'a pas suffisamment pris en compte ça. Ce qui fait que la conclusion, c'est qu'actuellement, en fait, le prix de l'eau est très sous-évalué, que ce soit en industrie ou pour les collectivités.
Je veux bien qu'on s'arrête un peu sur les collectivités davantage, parce que là, c'est très très important ce qu'on est en train de, enfin, ce que tu es en train de nous dire. En gros, les enjeux, c'est déjà renouveler des réseaux vétustes, parfois aussi construits, peut-être en dépit du bon sens à la va-vite, qui fuitent aussi, hein, pour certains, qui fuitent de manière importante.
Oui.
Donc, il va falloir remettre beaucoup d'argent sur la table pour des collectivités qui ont pas toujours forcément, notamment pour les collectivités rurales. Ça, c'est
Oui.
un enjeu, là, tout de suite. Il y a en plus de ça un choix à faire. On a parlé de contraintes hydriques en quantité et en qualité. Tout ça peut générer des coûts importants si on continue comme maintenant à construire des stations de pompage en plus, des stations d'épuration en plus, etc. Et c'est encore plus de coûts pour la collectivité. Donc ça, c'est potentiellement une impasse économique, notamment, tu me disais en préparation de cette interview, pour des territoires ruraux peu densément peuplés, avec
Oui.
peu de population et donc avec beaucoup d'infrastructures pour servir peu de gens dont les redevances ne vont pas forcément
C'est ça.
financer tout ça.
Oui, c'est ça. Et donc là, la stratégie que nous, on préconise, ben, c'est ce que l'on a mis en place avec pas mal de succès en fait sur les sites industriels, c'est-à-dire intéressons-nous avant tout aux usages, de manière à réduire la taille du problème et sa complexité. Et ensuite, tout ce qu'on n'a pas pu éviter, ben, oui, il va falloir le produire et le traiter en aval. Donc là, c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec certaines collectivités, donc des communes rurales dans l'Est parisien, et avec des projets qui sont en élaboration. Et puis, un programme qui est déjà lancé avec Limoges Métropole. Donc là, le programme s'appelle Limoges Métropole Territoire en transition hydrique. Et l'idée est vraiment d'appliquer cette stratégie qui est de dire, OK, je vais commencer à avoir une cartographie systémique. D'accord? Ça, c'est aussi un des points qui est important. Ne pas découper, en fait, la question de l'eau en petites sous-parties, parce qu'en fait, tout ça, c'est un système, hein. C'est la même eau, en fait. Et donc, il faut qu'il y ait une vision systémique de manière à vérifier la cohérence, l'efficience et la résilience du système, en prenant en compte toutes ces facettes, à la fois les facettes qui concernent la partie activité humaine, mais aussi, bien sûr, la gestion des milieux naturels. Et donc, l'idée, c'est de dire, ben, je vais commencer à produire un diagnostic systémique. Et à partir de ce diagnostic systémique, progressivement, je vais identifier des leviers d'action sur lesquels je vais pouvoir agir pour réduire les consommations et réduire les pollutions produites. Et bien sûr, tout ce que je n'ai pas pu éviter, il va falloir que je le produise, il va falloir que je le traite. Okay? Et donc là, bah, cette stratégie, c'est ce qu'on est en train de, ce qui a été lancé maintenant il y a quelques semaines. Et on est dans cette première partie de mise en place du diagnostic et l'identification des premiers leviers. Mais comme c'est une transition, c'est pas, comme je dis de manière assez rapide, la question, c'est pas de fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents, même si c'est intéressant et qu'il faut le faire. Y a pas... Mais on est en train, il faut reprendre la définition en fait de la transition qui est d'ailleurs sur le affiché sur le site du ministère de l'Environnement. La transition, ce n'est pas un ajustement du système actuel. Vu le gap qu'il y a entre ce que l'on devrait faire et ce que l'on fait, ce n'est pas un ajustement qui va permettre de remplir ce gap. Donc là, c'est vraiment une transformation, en fait, du système de production et du système de consommation pour justement arriver à remettre les deux à peu près en adéquation. Donc là, ça veut dire que ce n'est pas simplement à l'échelle d'une région la question de l'eau potable et des stations d'épuration urbaine, mais c'est aussi le système agricole, mais c'est aussi le système industriel qui lui-même a ses propres approvisionnements et traitements. D'accord? Voilà, donc c'est une vision systémique. Et donc là, forcément, c'est un projet qui est inclusif, puisque ça nécessite d'avoir autour de la table ben, tous les acteurs. Pas simplement les acteurs de la ville, mais aussi les représentants de l'agriculture, les représentants de la chambre de commerce et d'industrie, les représentants des milieux naturels, l'ADREAL, l'agence de l'eau, enfin bon, le PTB par exemple, pour essayer de voir comment progressivement on accompagne en fait toutes les activités humaines vers quelque chose qui est plus en adéquation avec la situation dans laquelle on est en train d'aller. Voilà.
Un autre levier qu'on peut imaginer, même si ça paraît un peu trop facile, mais des fois il suffit aussi d'une révolution culturelle pour enclencher les choses, mais que les collectivités mettent dans les cahiers des charges de leur délégation de service public auprès de l'opérateur. Donc, je m'en fiche, monsieur Veolia ou monsieur Suez. Les bureaux d'études m'ont dit que c'était possible, on a fait l'étude, et chaque année, vous prélevez 3% de moins que l'année précédente. Et d'ici la fin de la délégation de service public, vos prélèvements seront tant de pourcents moins qu'au début. Est-ce que ce genre de
Oui.
choses pourrait émerger?
Alors ça a déjà émergé. Donc il y a déjà en fait des appels d'offres délégation de services publics qui sont basés sur ce principe-là. Voilà, avec cet objectif-là. Et effectivement, ça pose un problème d'un point de vue du modèle économique, puisque au départ, le délégataire, en fait, lui, sa rémunération, elle est basée sur le nombre de mètres cubes. D'ailleurs, tout le modèle économique est basé sur le nombre de mètres cubes, que ce soit un délégateur régie ou privé, donc en DSP. En fait, aujourd'hui, le système est basé sur le fait que les gens consomment et polluent, et c'est ce qui permet de payer en
Ça.
fait les infrastructures, les coûts d'exploitation,
C'est
etc.,
vous.
etc.
Plus
Voilà.
vous consommez et
Or,
polluez, plus je vous donne de l'argent, quoi. C'est ça. Enfin, on l'a déjà dit
ouais.
auparavant, mais formulé comme ça paraît bon. Ouais.
Oui. Et donc, en fait, comme on rentre dans un monde sous contrainte. L'objectif est de réduire les consommations et réduire les pollutions produites pour limiter l'impact et avoir une meilleure efficience, une meilleure résilience, etc. Mais ça veut dire que derrière, on est en train de réduire mécaniquement le chiffre d'affaires qui est servé à payer tout le reste. Donc là, la solution, c'est où on commence à faire augmenter très fortement le prix de l'eau. Et ça, bah, on revient sur la question tout à l'heure, c'est-à-dire que les modèles économiques, y compris pour les parties domestiques, pour les particuliers, ben, si on vous dit ce qui est déjà le cas dans certaines régions, hein, certaines régions, le prix de l'eau est en train de passer à plus de 10 euros le mètre cube. Bon, ben, faut pouvoir l'assumer. Donc là, il y a de nombreuses réflexions qui sont en cours, pas simplement en France d'ailleurs, mais un peu partout, sur OK, comment devrait-on mettre en place en fait peut-être des prix qui sont très très faibles en fait pour les premiers mètres cubes, de manière à ce que les petits utilisateurs n'aient pas de réduction de leur consommation, mais dès que la consommation commence à augmenter, avoir une augmentation du prix de l'eau, qui fait que derrière, ça contraint, ça rééquilibre le modèle économique, mais ça contraint les utilisateurs à réduire eux-mêmes leur consommation et leur rejet. Bon, ça, c'est un exemple. Il y a pas mal d'autres possibilités. Il y a une étude d'ailleurs qui va être menée par Europa, l'ONG Europa, sur une intercomparaison au niveau européen, sur une vingtaine de pays. Sur les modèles économiques à la fois de financement des installations, notamment le renouvellement des réseaux, etc., etc. Comment est-ce que les autres font? Quelles sont les modalités en fait de prix sur le mètre cube d'eau. Voilà.
Ouais. Je vais dire, ça m'est sorti de l'esprit. Mais non, alors oui, c'est une révolution dont on est en train de parler, même, alors plus qu'une transition et même plus qu'une transformation. C'est complètement un changement, pas que dans les mentalités, mais aussi dans la manière dont le système lui-même fonctionne, la manière dont les usagers se comportent au jour le jour. Ça va nécessiter des investissements. Alors oui, tu
Oui.
parlais de, ça va des, enfin, une entreprise qui se tire une balle dans le pied en générant moins de chiffre d'affaires pour elle-même. On pourrait imaginer que c'est pas le cas, puisqu'on est en même temps en train d'investir dans cette transition, et entre guillemets, le retour sur investissement, ce serait bon déjà en termes purement vitaux, le fait d'avoir encore une eau potable sur le long terme. Ça, je sais pas comment ça se chiffre en coût complet, mais bon, ça a une certaine valeur.
Alors
En
là, j'ai une petite
termes purement
anecdote.
financiers, cet investissement serait financé par les économies qu'on fait justement sur les moindres coûts de construction de nouveaux équipements, d'entretien d'infrastructures de plus en plus gourmandes, etc.
Alors, petite parenthèse sur un des aspects que tu as abordé, qui est notamment la partie coût de l'eau. Comment est-ce qu'on chiffre le fait de ne pas avoir d'eau, etc., etc. Bon, alors maintenant, il y a j'ai entendu d'un industriel où la réflexion qui est menée, c'est de dire, OK, si vous voulez commencer à savoir ce que vous coûte l'eau réellement, eh ben, prenez votre modèle économique et je vous enlève 10% d'eau. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ben, si ça réduit, alors je vais donner un cas concret qui est chez un de nos clients, il a fait ce type d'exercice. On lui demande les contraintes réglementaires lui demandent en fait de réduire ses consommations de 25% d'eau. Il a calculé qu'en l'état actuel, si il ne met pas en place de modification de son process, ça réduit de 50% sa capacité de production. Quel est le coût de l'eau? Ben, le coût de l'eau, c'est 50% du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est une autre manière de voir le coût de l'eau et qui est de dire, en fait, il faut arrêter de penser au coût de l'eau en tant que matière, mais à l'eau en tant que fonction. Et c'est ce que nous permet de faire l'eau qui est l'impact de l'eau. Et donc, derrière, commencer à réfléchir en disant, bah, OK, co comment moi, en tant que, par exemple, utilisateur, industriel, agriculteur, etc., je navigue entre les contraintes qui sont en train d'arriver, qui sont physiques, hein, donc dire, il n'y a pas de discussion pendant des années. Ces contraintes qui vont impacter mon modèle économique, mais derrière, comment est-ce que je dois modifier ce modèle économique pour pouvoir toujours produire, puisque la question, ça va être, comme je le dis d'ailleurs de manière assez rapide avec les agriculteurs avec qui j'ai l'occasion de discuter, je leur dis, mais moi, je n'ai pas prévu d'arrêter de manger dans les années à venir, donc il va falloir que vous continuez à produire. Par contre, produire dans un modèle qui ne prend pas en compte ou insuffisamment la partie eau, quantité comme qualité, d'accord? Ben, en fait, ça va être une impasse pour vous aussi, parce que de toute manière, votre modèle économique va pas tenir. Vous allez y perdre. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pivoter? Alors, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure. Il peut y avoir des cultures qui sont moins gourmandes en eau, des cultures qui sont moins sensibles à la sécheresse. Il peut y avoir pas mal de choses. Raccourcir aussi, bien sûr, aller vers les circuits courts, etc., etc., pour retrouver. On revient toujours au même truc. J'avais un modèle qui était plus ou moins en adéquation avec une situation. Cette situation est en train de partir. Ben, il va falloir que je me réadapte. Et croire qu'on va combler ce gap en mettant de la technologie, de l'énergie, c'est juste une impasse. Ça ne marchera pas.
Ouais. On parle à nouveau d'investir dans ces métiers de demain. Alors certes, certaines entreprises vont peut-être perdre du chiffre d'affaires, mais certaines vont en gagner dans les métiers du diagnostic, du monitoring, de l'accompagnement vers meilleure
Tout à fait.
efficacité des usages. Donc
C'est
de toute
ça.
façon, il va falloir investir. Bon, on est dans une période où c'est l'argent magique des banques centrales qui tombe du ciel par centaines de milliards. Ça a un peu tourné la tête, et ça ne fait pas que tourner la tête, ça a remis en cause aussi beaucoup de dogmes économiques qu'on nous a servis pendant tout ce temps et que j'ai moi-même pas mal gobé. Et donc beaucoup de dogmes qui sont en train de s'effondrer. Donc on est littéralement en train de faire tourner la planche à billets pour, entre autres, donner de l'argent à des gens qui restent chez eux, qui les pauvres sont interdits d'aller travailler en attendant que le virus disparaisse et que les gens puissent retourner dans les théâtres, les musées, les restaurants, etc. La confiance est maintenue dans l'euro alors qu'on est littéralement en train de donner de l'argent, hélicoptère monnaie, à des gens qui ne vont pas travailler, c'est tout à fait légitime. Je me dis qu'un grand plan d'investissement à échelle européenne pour investir dans cette transition hydrique, ça ne ferait pas non plus s'effondrer la confiance. Donc, on est quand même en train de parler de quelque chose pour assurer la sécurité hydrique des Européens sur le long terme, pour créer de l'activité plutôt qualifiée, à forte valeur ajoutée, non délocalisable dans les nouveaux métiers de l'eau qu'on est en train d'évoquer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à débloquer à ce niveau-là, en termes d'injection massive d'investissements publics venant de l'État, venant de l'Europe, peu importe, manifestement, on a des marges de manœuvre pour investir tant que la confiance ne s'effondre pas. Et là, en l'occurrence, on est en train de parler d'une cause dans laquelle on peut légitimement espérer qu'il y ait de la confiance. Donc, est-ce que l'Europe fait ce qu'il faut? Est-ce que l'État fait ce qu'il faut aussi pour impulser cette transition, transformation, révolution?
Alors, premièrement, par rapport à cette notion, donc le besoin au niveau mondial, il va devenir énorme, d'accord? Puisque ça, c'est en train d'impacter tous les pays, parce que tout simplement, c'est un changement du cycle de l'eau. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu aussi lorsqu'on est allé au Canada il y a quelques années, puisqu'on s'intéressait à ce marché-là. J'ai été étonné de voir que, par exemple, dans l'hôtel où on était, il n'y avait pas de robinet au niveau de la douche. On pouvait uniquement faire varier la température. Et donc, on se prenait un flux. Si je voulais un peu d'eau, ce n'était pas possible. On s'est rendu compte aussi, parce que là, il y avait des conférences, etc., que, chose étonnante pour nous en France, il n'y a pas de compteur d'eau. Parce qu'en fait, le Canada avait tellement d'eau disponible, hein, d'eau douce, je crois que c'est les premières réserves d'eau douce dans le monde, qu'ils disaient, bon, ben voilà, peut-être ils payent un forfait, mais il n'y avait pas de compteur. La conséquence, c'est qu'ils se sont rendus compte que, ben, ils produisaient énormément d'eau potable, mais avec un gaspillage qui était monstrueux, pas simplement parce qu'il y avait des fuites, etc., classique, mais parce que, par exemple, quand ils ont commencé à faire des enquêtes, je crois que c'était à Montréal qui ont fait ça, ben, ils se sont rendus compte que l'été, comme il faisait très chaud, il y avait des magasins qui étaient donc sur la rue, qui refroidissaient le magasin en circuit ouvert avec des échangeurs d'eau, enfin des échangeurs de chaleur, en fait, basés sur flux d'eau potable. Donc, en fait, vous prenez l'eau potable et puis ça part directement à l'égout. C'est une aberration. Donc, tout ça pour dire que ce changement, en fait, lié à l'eau, ne va pas être simplement dans les zones qui sont dites en stress hydrique, mais tout simplement parce que des modèles économiques, on revient toujours sur ces moteurs-là, hein, les quatre grands moteurs, les quatre sont en train d'agir dans la même direction. Donc, tout le monde va être impacté parce que, c'est comme je le dis rapidement, c'est la fin du monde open bar. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est gigantesque. Ça veut dire qu'il va y avoir un marché qui va être gigantesque, d'accord? Et ce marché va être différent et complémentaire du marché de la gestion de l'eau, qui était plutôt un marché du traitement de l'eau, d'accord? Et que oui, ça va générer des besoins en gestion d'information, des besoins en études, mais aussi des besoins en procédés qui ne vont plus être forcément des grands procédés centralisés, comme par exemple les usines d'eau potable, les stations d'épuration, mais au contraire, plein de petits procédés divers et variés qui vont être mis au plus près des usages. Et donc ça va démultiplier les technologies, les savoir-faire, les solutions. Et donc là, il y a tout un monde qui est à ouvrir.
Ah
Et
ben
c'est ce que nous, on préconise au niveau français, puisque la France est quand même un des pays qui est très en avance et très reconnu sur le marché de l'eau, de par les grands acteurs en fait qui y sont présents, mais aussi de par l'école de l'eau en fait française. Et Limoges, par exemple, est plutôt bien placé sur ce podium-là, puisque par exemple, au niveau local, on a aussi l'Office international de l'eau. On a des écoles d'ingénieurs, on a des clusters dans lesquels on a beaucoup d'acteurs de l'eau, etc. Et ce que je préconise, en fait, à la fois au niveau de Limoges Métropole, de la région Nouvelle-Aquitaine, mais au niveau national, c'est de voir en quelle mesure il est possible de développer une filière transition hydrique qui irait compléter, en fait, la filière eau traditionnelle, puisque l'objectif, ce n'est pas de la dégager, ce n'est pas ça. C'est, à un moment donné, on va aborder le problème d'une manière différente. Et là, il y a des activités qui sont extrêmement importantes, avec un marché mondial qui est en train de s'ouvrir, avec des acteurs qui peuvent arriver en plus maintenant. On a été en contact avec, par exemple, le CNES. Le CNES qui dispose justement d'une capacité de production d'informations de par ses satellites et qui permet justement de commencer à faire une analyse du système eau à l'échelle de région. Que, par exemple, des acteurs comme Aquacé ou d'autres, on est incapable de faire parce que nous, entre guillemets, on va avoir des capteurs. Et donc, c'est à un endroit donné, on va faire des prélèvements à un endroit donné, mais dire, OK, sur telle région, voilà ce qui est en train de se passer sur un carré de 20 km sur 20 km ou 200 sur 200, ben, ce n'est pas le même type d'outil. Or, il va falloir, parce qu'on est en train de travailler sur le cycle de l'eau à l'échelle de bassin, il va falloir combiner aussi des données satellites avec éventuellement des données, ben, sur les données météo, les données aéroportées, des données au sol, des données souterraines. Et donc, tout ça, ce sont des nouveaux métiers, des nouvelles manières de faire, à la fois pour la partie données, mais aussi, bien sûr, pour la partie gestion de l'eau, parce que les actions qu'on va avoir à mener ne sont pas des actions qui sont dans des solutions centralisatrices. Au contraire, ça va être une diffusion et pour tous les secteurs, hein, agricoles. Par exemple, j'ai vu des petites choses qui étaient très sympathiques, qui avaient l'air de bien fonctionner et qui ne coûtaient pas grand-chose. Dans une des réunions qui a été menée avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, il y avait un représentant du milieu agricole et qui expliquait que lui, bah, il avait commencé à mettre en place des petits capteurs en fait, sur son exploitation, ne serait-ce que pour mesurer correctement l'humidité du sol. Ça lui avait coûté, je sais plus, il disait, je crois, 2000 euros en fait, d'investissement. Après, il avait un abonnement Internet des objets qui lui coûtait quelques euros parce que ce n'est pas du flux comme ça. Il a une information peut-être par jour, quoi, ça lui suffit. Et à partir de là, il avait commencé à changer sa manière d'irriguer. Et donc, il avait réduit de 30% ses consommations d'eau. Bon, ben voilà, ce sont des exemples. On n'est pas en train de parler de choses qui sont extraordinaires. Il y a énormément de choses qui sont dès aujourd'hui possibles de faire, à la fois dans la chasse au gâchis, et nous, on est bien placés pour voir depuis une dizaine d'années que dans certains cas, c'est n'importe quoi, tout simplement parce que ça n'était pas la question. Ce n'est pas parce que les gens étaient plus stupides que nous, c'est parce qu'on ne leur avait pas posé la question. Et donc, du coup, ils pensaient que c'était open bar, ils s'étaient organisés au plus simple, et en fait, ils se sont tirés une balle dans le pied. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont extrêmement simples à faire. La chasse au gâchis, y compris les fuites, mais le gâchis est déjà, de notre point de vue, plus important que les fuites. Le gâchis, c'est on ne se préoccupe pas de l'efficience de l'usage. Voilà. Je tire la chasse avec 50 litres d'eau alors que je pourrais d'eau potable alors que je pourrais le faire avec beaucoup moins. Par
Dans ce
exemple. Ah, c'est bien.
chemin vers une gestion plus décentralisée à petite échelle de l'eau, mais je pense aussi à la contribution possible des low-tech. On a reçu Quentin
Bien sûr.
Mathéus du Low-Tech Lab il y a quelques semaines.
Ouais.
Effectivement, il y a des choses qui sont pas si compliquées à faire. Alors, bon, si je prends un petit exemple que je connais avec le village de Pourgues en Ariège, qui n'est pas forcément réplicable pour 67 millions de Français, mais déjà plus ou moins réplicable sur ce qui est fait parce que c'est rien de sorcier et qui peut inspirer d'autres démarches, mais peu importe. Donc déjà, on a aménagé pour 3 000 euros une mare au pied d'une colline. Donc 3 000 euros pour un espace qui abrite 25 personnes. Hein. Enfin, bon, je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine, qui permet de rendre l'éco-village potentiellement autonome en eau pour son jardinage, son potager, etc. Après, on a des habitats légers qui commencent à pousser
Oui.
grâce au permis d'aménager que nous a octroyé la commune. Alors, je ne sais pas si on a le droit d'aménager des canalisations d'eau qui acheminent de l'eau jusqu'à ces nouveaux habitats légers, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Chaque habitat est en train d'aménager son petit système d'eau, donc récupération d'eau de pluie, des cuves, etc. Donc rien de très compliqué, tout ça peut être fait avec des matériaux récupérés d'ailleurs. Alors moi je suis pas du tout bricoleur, mais ça fait appel à l'instinct de bricoleur qui peut sommeiller en certains, notamment les gens qui mettent en place ce genre de choses. Tout ça pour dire que aussi chacun peut agir à sa petite échelle, limite familiale, hein. Donc il y a beaucoup de choses pour se réapproprier justement l'eau et ça contribue à la décentralisation que tu évoquais. Et aussi comme du coup l'eau ne sort pas d'un robinet magique, mais que c'est le bonhomme lui-même qui a mis en place tout le système qu'il a pensé de A à Z, il va forcément adapter sa consommation en fonction.
Alors, il y a un autre aspect qu'il ne faut jamais oublier, et on le voit à chaque fois, on se concentre sur la partie quantitative. La partie qualitative est tout aussi importante. Et par exemple, au quotidien, si on veut prendre des aspects qui peuvent toucher tout un chacun, les toilettes ne sont pas un système d'évacuation facile des déchets, même si ces déchets sont liquides. On n'est pas censé balancer des médicaments parce que pour s'en débarrasser dans les toilettes, on n'est pas censé y balancer la sauce tomate, il y en a pas, etc., etc. Tout ça, c'est une très mauvaise utilisation en fait du système de gestion de l'eau. Et donc que ce soit chez des utilisateurs particuliers parce que c'est la facilité en fait de tout ce qui ressemble à peu près à un liquide le mettre dans les toilettes ou des choses qui sont tout aussi stupides qui sont par exemple, on le voit sur certaines marques de papier toilette. Le tuyau qu'il y a à l'intérieur, qui tient le rouleau, ben dessus, il y a marqué, vous pouvez le jeter aux toilettes parce que c'est de la même matière. Maintenant, vous avez un déchet sec, que vous mettez sec et propre, que vous mettez dans des toilettes, et après, derrière, il va falloir, ça va être dilué, vous en allez en mettre partout, et il va falloir, derrière, essayer de le détruire. C'est une aberration d'autoriser ce genre de pratique. Donc ça, c'est valable pour les particuliers, mais on pourrait tout à fait dire, bah oui, mais arrêtons d'utiliser les réseaux d'eau usée pour balancer des déchets liquides, c'est une chose, Mais on pourrait tout à fait dire, regardons quelles sont les substances aussi qu'on utilise nous au quotidien et qui, par nature, se retrouvent dans les effluents. J'avais vu les chiffres pour la région parisienne sur certains composés, comme je crois que c'était les phtalates, c'était il y a une dizaine d'années, donc j'ai plus trop les chiffres en tête. Mais les substances qui étaient, par exemple, dans les shampoings, dans les savons, quand on voit le nombre de personnes qui, le matin, se douchent, ça fait un pic de pollution qui est gigantesque et qui est concentré à un endroit, traité au maximum, mais quand même le rejet se fait à un endroit. Donc là aussi, il faut voir, pour résumer, la partie gâchis, la partie usage aberrant, la réduction aussi de par du choix des substances que l'on utilise de manière à ce qu'elles soient plus facilement gérables ou qu'elles aient un impact moindre. Et tout ça, ce que je viens de dire, que l'on perçoit correctement, facilement pour un particulier, c'est exactement la même chose pour un industriel. Par exemple, on a des industriels qui se sont fait, entre guillemets, choper par la patrouille parce qu'ils se sont retrouvés avec certaines substances en sortie. Donc, c'était dans le cadre de la RSDE, recherche des substances dangereuses dans l'eau. Et donc, il y avait toute une liste, en fait, de substances qu'ils étaient chargés de suivre. Et ils se retrouvent avec des substances qui étaient dans la liste et on leur dit, ben, ça, il va falloir l'éliminer. Et donc, l'industriel ne comprenait pas trop en disant, ben, ouais, mais moi, ce n'est pas moi qui l'utilise ça. Moi, je n'ai pas ça dans mes trucs. Donc, d'où ça sort? Et s'est rendu compte que ça faisait partie, grosso modo, des compositions de certains produits détergents industriels qu'il utilisait pour nettoyer ses réseaux, etc., etc., pour faire son travail. Et donc, il est remonté vers le fournisseur en disant, telle substance qui me pose problème à la sortie du tuyau ne fait pas partie de la liste qui m'intéresse. Donc, faites-moi le même produit, mais sans cette substance-là, qui était par exemple, en fait, des produits qui n'ont pas impact la fonction du détergent, mais c'est sa capacité à être stockée pendant 2 ans, etc., etc. Donc voilà, on peut remonter aussi en disant arrêtez de me mettre des polluants dans mon système, etc. Et donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une très grande diversité en fait d'actions possibles, des actions qui sont simplement organisationnelles, des actions qui sont techniques, des actions qui sont hyper technologiques, parce que dans certains cas, ben, peut-être que ça serait intéressant de faire ça. Mais dans tous les cas, c'est un ensemble de solutions. Il n'y aura pas de boîte magique.
C'est passionnant, hein, Jean-Emmanuel. Je contribue beaucoup aussi à ce que je pousse mes connaissances sur ce sujet de l'eau que j'avais peut-être un peu négligé aussi pendant tout ce temps, parce que pendant longtemps aussi, en m'intéressant à l'écologie, c'était essentiellement climat, enfin, climat et énergie, or tout est lié. On approche, je pense, de la fin aussi de cet échange, mais en tout cas, c'est un sujet très, très riche, on peut encore en parler des heures, mais je dirais que pour conclure, quoi, à l'image de l'énergie qui ne pèse officiellement, si on compte que le petit bout de la lorgnette, que quelques pourcents de points de PIB, bah, l'eau, ça doit être encore moins que ça. Or, en réalité, ça pèse 100% du PIB et 100% de nos vies, et c'est lié à tout. Je trouve que c'est un bon fil conducteur aussi pour entrer dans les sujets écologiques en général, puisque rien qu'au cours de cet entretien, on a parlé bon, d'eau, c'est sûr, mais on a parlé de climat. On a parlé d'énergie, on a parlé d'industrie, on a un peu parlé agroalimentaire, on aurait pu en parler encore plus. On a
On
parlé
a peu parlé
usage de toutes sortes,
naturel,
beaucoup de choses.
on
Et
a
on n'a
peu
même pas
parlé
parlé de
d'un.
biodiversité, hein, mais bon, là, j'imagine
Voilà,
qu'on
on a
est
peu
bien dans la
parlé des
tête
milieux
des gens.
naturels, mais c'est exactement le même problème, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un changement du cycle de l'eau avec augmentation de la température pendant l'été, en plus des milieux naturels, avec donc du coup augmentation de la concentration des polluants, puisque si on n'agit pas sur les émissions de polluants, eh ben, ils seront très peu dilués en fait dans les milieux naturels. Eh ben, derrière, ça a des impacts qui sont catastrophiques pour la partie biodiversité, mais de manière générale en fait sur les écosystèmes.
Ah oui,
Voilà.
le
Donc
dérèglement des cycles de l'eau aussi, une des causes du dépérissement en cours d'une
oui.
partie de la forêt française. Enfin
Là,
bon.
j'ai eu des chiffres sur le bassin Vienne-Amont. Donc, en discutant avec le PTB de la Vienne, je crois que c'était en 2019, 40% des cours d'eau étaient en ASEC.
Ah
Alors là, les milieux naturels, hein, ah
oui.
oui, non, c'est un impact, ah oui, c'est gigantesque.
Ouais.
Donc, c'est notamment pour toutes les têtes de bassin, c'est toute la partie chevelue qui est complètement asséchée. Et puis, ce qui reste en bas, vous y avez un peu d'eau avec un peu d'eau est chaude. Donc,
Ouais,
c'est pour
ouais.
les milieux naturels. On est en train là aussi de les faire disparaître en fait à vitesse grand V, quoi.
Ouais. Derrière le terme technique biodiversité, en fait, ça veut dire la vie, hein, la diversité de
Oui,
la
voilà.
vie, mais aussi
Absolument, il y a une
la vie. Et
question.
il ne faut pas être grand clair pour voir un rapport entre l'eau et la vie, mais c'est ce qu'il faut se plonger, effectivement, le rapport entre les milieux naturels aquatiques et les grenouilles, les poissons, etc.
C'est ça.
On aurait pu en parler, même si on n'est pas forcément les plus experts, mais évidemment, c'est lié. C'est pourquoi ça renforce d'autant plus l'idée que l'eau est un bon point d'entrée pour parler de beaucoup de sujets écologiques, mais aussi sociaux. On aurait pu parler aussi davantage de santé, hein, donc bien sûr, l'eau et la santé,
Ah
c'est
oui.
on invite vraiment oui, chacun à vraiment réfléchir suite à cette interview qui, je trouve, ouvre beaucoup de portes aussi pour s'investir davantage dans ces enjeux et offre finalement pas mal d'espoir, même si on a au début, j'ai peint un tableau un peu pessimiste sur le changement climatique, etc. Mais on a évoqué pas mal de leviers d'action. Et à nouveau, pour venir d'un pays, l'Iran, enfin, originaire d'un pays, l'Iran, qui, enfin, je pense que la France ne sera pas dans un état de stress hydrique semblable de sitôt. Et pourtant, l'Iran s'en sort et encore. En gaspillant beaucoup, donc l'Iran a encore de la marge. Voilà. Donc voilà, on a envie de dire que la France peut s'en sortir aussi, mais pour ce faire, il va falloir évidemment se bouger. Bon, je sais pas, Jean-Emmanuel, est-ce que tu as d'autres mots de conclusion?
L'autre mot de conclusion, ben, je sais pas, cette idée que l'Iran s'en sort, je ne sais pas, je ne connais pas la situation en Iran. Par contre, il y a eu une petite vidéo qui était sortie sur une série qui s'appelle Zoom d'Arte et qui parle d'Arabie Saoudite. Je crois que c'est l'Arabie Saoudite. Et donc, eux, ben, ils ont fait effectivement les grands cercles de culture et en pompant tout simplement de l'eau dans les nappes phréatiques très profondes. Et je crois, en 20 ans, ils ont cramé 90% en fait des réserves en eau. Donc cette idée que bah, jusqu'à présent on s'en est sorti et encore il y a de la marge, je pense que justement c'est plus le cas. C'est-à-dire que les réserves qu'il y avait ont été ont commencé à être franchement épuisées et donc ça va s'arrêter. Et en plus cette histoire de cycle de l'eau qui est perturbée va faire que ce que l'on a cru inépuisable, inaltérable et gratuit ne l'est pas. Point à la ligne. Et donc qu'il va y avoir inévitablement en fait un réajustement. Et plus on s'y prendra tard, plus ce réajustement sera brutal et subi. Voilà.
Oui, alors c'est pas une bonne formulation, ils s'en sortent parce qu'en fait, ils repoussent péniblement le mur. D'ailleurs, je vais partager un lien d'un document
Voilà.
et péniblement et pas forcément avec les solutions qu'il faudrait, c'est-à-dire en consommant encore plus
Exactement.
d'énergie, etc.
L'efficience du système n'est absolument pas au rendez-vous. Donc, ça veut dire que ça ne tiendra
Voilà, pas
pas.
vraiment. Et non, et
Bon, ça
après,
se peut
non,
que
il y
ça
a.
brille. Je crois qu'il y a un pont, mais je continue à avancer. Mais à un moment donné, je me rends compte qu'il n'y a plus de pont. Puis là, ben, c'est la chute. Voilà.
Ouais, bien sûr que tu fais bien de rectifier. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on peut faire à l'idée de résilience telle que tu viens de la dépeindre, c'est-à-dire on repousse le mur, on survit, mais sans régler les problèmes à la source. Hein. Donc c'est
On
une
n'a pas
question.
fait de transition. C'est pour ça que je
Exactement.
préfère parler de transition, parce que la transition n'est pas censée être un ajustement de la situation actuelle, c'est censé être un changement.
Ouais. Ouais, non,
Un
absolument.
changement dans l'organisation, un changement dans les systèmes de production et de consommation.
Non, tout à fait. Non, tu fais bien de le reprendre. Je vais d'ailleurs partager un lien d'un documentaire Arte sur l'Iran qui voit que, en fait, non, il y a des populations qui en souffrent parce qu'on détourne des cours d'eau de zones rurales, on va dire pas économiquement prioritaires, pour servir des zones urbaines plus riches. Et ça, il y a des populations qui se retrouvent presque du jour au
Bien
lendemain
sûr.
sans les ressources en eau qu'elles avaient. Donc, non,
C'est ça.
non, l'Iran ne
C'est ça.
s'en sort pas, on va dire. La guerre, pour l'instant, est évitée. C'est ça, s'en sortir. Donc, rectification nécessaire, en effet, Jean-Emmanuel. Mais merci beaucoup, c'était passionnant
Avec grand
et
plaisir.
à chaque fois je suis époustouflé par le contenu enfin, que tu évoques. Et puis bah, on en reparle évidemment quand tu veux. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel.
Avec plaisir. Merci à toi.
Au revoir.
À bientôt.